Je suis historienne. Mes premières recherches étaient centrées sur les phénomènes de délinquance au Moyen Âge, plutôt sur le vol et la question du brigandage, et plutôt centrée sur, comment dirais-je, les lendemains de guerre, et celle de la guerre de 100 ans en particulier. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu différent qui se rattache d'ailleurs un peu plus à mes travaux actuels, c'est-à-dire que je travaille plutôt sur la guerre, hein, et les relations parfois aussi entre hommes de guerre et population civile. Jean-Marc Morisseau m'avait suggéré très gentiment d'aborder cette question de la violence dans le monde des campagnes. Cette présentation que je ferai devant vous aujourd'hui, sachant que ça n'est pas le cas normand que je vais privilégier, nous y reviendrons, même si je ferai d'assez fréquentes, comment dirais-je, remarques la concernant. Alors, d'emblée, on peut dire que les violences paysannes sont anciennes. Au Moyen Âge, elles ont scandé les siècles de manière régulière. On parle alors d'émotion, de commotion, de mutination pour les qualifier. Elles se sont amplifiées, ou du moins ce sont les sources qui nous en donnent cette tonalité, au cours des XIVe et XVe siècles, participant d'un même mouvement convulsif qui agita à la fois le peuple des villes et celui des campagnes en Europe, entre 1378 et 1382, même si ce mouvement peut se prolonger au-delà, puisqu'on retrouve ces soubresauts révolutionnaires jusqu'au XVe siècle. Alors on pense plutôt, pour le cas français, à la révolte cabochienne, qui est plutôt un phénomène urbain. Alors je laisse de côté les révoltes rurales qui ont plutôt marqué l'est du royaume et plutôt les terres d'empire, je pense à la guerre des paysans qui sont postérieures. Alors, évidemment, vous avez tous à l'esprit la jacquerie qui est devenue emblématique de ces mouvements populaires, en particulier donc dans le monde rural. Mais l'on pourrait tout aussi bien évoquer les tuchins ou les tarvenus que l'on connaît moins bien, mais qui relèvent du même mouvement, pour tout dire, anti-nobiliaire et anti-fiscal. Le premier étant étroitement lié au second, même si en fait ce sont surtout les redevances seigneuriales qui sont dénoncées, d'où la destruction au sein des châteaux, plutôt des terriers. Cependant, dans le cas des tuchins ou des brigands et des brigands normands, c'est un sentiment anti-anglais qui a stimulé des associations de gens de village, comme on les nomme alors, en vue de constituer des groupes d'autodéfense. C'est une violence singulière, pour tout dire individuelle, spontanée, non organisée, que je souhaite plutôt évoquer devant vous aujourd'hui. Parce qu'elle a pour cible les hommes de guerre, elle trahit cette haine sourde, ancestrale, des populations civiles à l'égard du soldat. À cet égard, la guerre de Cent Ans est bien sûr un moment privilégié. Cette guerre, quasi chronique, a tendu souvent à l'extrême les relations entre populations civiles et gendarmes. La documentation, certes plus riche dans ces deux derniers siècles médiévaux, est aussi le reflet de ces conflits sans doute plus nombreux et souvent sanglants. La question de la violence paysanne nous renvoie aux jalons posés par l'historiographie. Elle a suivi différentes orientations depuis le XIXe siècle et on peut dire qu'elle témoigne d'un réel foisonnement. Je m'arrêterai ensuite sur les points de vocabulaire avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors, depuis le XIXe siècle, plusieurs études ont mis l'accent sur la pression de ces hommes de guerre sur les communautés villageoises pendant la guerre de Cent Ans. On parle de ces populations du plat pays pour les distinguer des populations urbaines. J'y reviendrai. Ce sont des populations, des territoires abandonnés aux excès des routiers, passant des grandes compagnies du XIVe siècle aux écorcheurs du XVe. Alors, j'ai fait une liste non exhaustive, mais représentative de ces publications qui ont jalonné cette historiographie. Et je commencerai par l'étude d'Alexandre Thuettet sur les écorcheurs pendant le règne de Charles VII, donc publiée en 1874, qui, complète, je l'ai mis après, j'aurais peut-être dû inverser les deux titres, l'histoire de la jacquerie de Siméon Luce. Alors c'est vrai que Siméon Luce participe plutôt de cette histoire plus traditionnelle qui a longtemps privilégié les biographies et il y a sacrifié aussi puisque il est aussi l'auteur d'une histoire donc de Bertrand du Guesclin. Hein, c'est le moment où l'on publie ses biographies de grands capitaines, Jules Quicherat et l'un de ses historiens aussi qui a publié la biographie de Rodrigue de Villandrando. Vous le voyez, cette histoire médiévale est alors surtout représentée par ces grandes monographies produites par ces imminents archivistes paléographes. Il faut attendre le XXe siècle, le renouveau des études rurales, porté entre autres par l'école des Annales, pour qu'apparaissent ces masses anonymes, mais plutôt souvent comme des victimes muettes de ces temps difficiles. Alors après ces monographies rurales, c'est dans les années 70 que l'on voit s'imposer une véritable vague historiographique centrée sur les révoltes populaires. Alors si la période a témoigné, je dirais, d'un intérêt singulier pour le phénomène révolutionnaire, ce n'est pas fortuit, mais je n'y insiste pas, vous m'aurez compris. Alors je citerai simplement quelques références, en commençant donc par l'étude de Michel Mola et Philippe Wolff, hein, Oncle Bleu, Jacques et Chiompi, donc les révoltes populaires en Europe, 14e, 15e, publiée en 1970, Guy Fourquin, 1972, hein, qui édite Les soulèvements populaires au Moyen-Âge, opérant donc une synthèse. Du côté anglais, on peut effectivement aussi citer des auteurs comme Rodney Hilton, qui a publié donc sa première synthèse donc en 1973 et qui a été donc traduite Les mouvements paysans du Moyen Âge, la révolte anglaise de 1381. Un peu plus tard, donc on retrouve des synthèses telles que celle de Jean-Pierre Le Guay, qui finalement a fait une mise au point sur les révoltes rurales donc du Royaume de France 14e 15e. Henri Neveu, en 1997, qui a brassé sur une plus longue période ce phénomène des révoltes paysannes. Oui. C'est un lapsus révélateur.
Surtout que c'est un canet.
Et puis, plus récemment, donc, je voudrais citer aussi Vincent Chalet, qui, dans un travail de thèse, a travaillé sur les Tuchins. Alors, c'est les Tuchins du Languedoc. À travers un article, oui, je l'ai reproduit ici, donc Compagnon contre gendarme du Languedoc. Alors, cet article renvoie une historiographie plus spécialisée qui s'est ancrée justement au même moment, mais qui tentait de baliser un champ de recherche un peu différent, centré non seulement sur la révolte contre les institutions et l'autorité seigneuriale, mais qui soulignait ces rapports conflictuels entre population civile et hommes de guerre. Alors on va voir, la frontière n'est pas simple à tracer, car derrière la révolte paysanne, on pourra d'ailleurs y revenir hein, pour la définir et la délimiter, se mêle souvent la haine du noble et celle de l'homme de guerre. Ces limites sont encore plus floues lorsque s'y superposent des arguments patriotiques face à l'enjeu de légitimité concurrente, comme ce fut le cas en Languedoc, mais surtout en Normandie. De ce point de vue, il est vrai que la Normandie a été un observatoire privilégié, qu'elle le reste, en raison du rôle singulier que les populations rurales ont tenu durant l'occupation anglaise. Alors, je ne pourrais pas citer ici tous les travaux hein, qui ont été produits pour éclairer cette question normande sous le feu de l'occupation, mais je citerai le petit livre de Roger Jouette, hein, « La résistance à l'occupation anglaise en Basse-Normandie hein, », qui est très connu, qui a été publié en 1969. Vous voyez, il y a bien vraiment une fenêtre là, dans ces années 70, sur ces questions révolutionnaires. L'ouvrage est d'autant plus intéressant qu'il publie un certain nombre de pièces et qu'il est le premier à poser la question de la définition du terme de brigand. Alors, je me réfère aussi à un article que je trouve très bien fait, celui de Jean-Louis Roch, hein, « La guerre du peuple, autodéfense, révolte et pillage pendant la guerre de Cent Ans ». Je crois d'ailleurs que c'était un colloque qui s'est tenu à Rouen, si ma mémoire est bonne. Alors, il y a aussi des monographies rurales, je ne vais pas toutes les énoncer, qui peuvent, de manière accessoire, mettre l'accent sur ces relations des paysans et des hommes de guerre. Je retiendrai simplement quelques titres pour terminer. Là encore du côté anglais, Nicholas Wright, Knights and Peasants, The Hundred Years' War in the French Countryside, en 1998. Et plus récemment, en 2002, donc, il y a eu un colloque qui s'est tenu sur les villageois face à la guerre. Et donc Philippe Contamine y a contribué, ainsi que dans un autre article sur la question des rançons et des apathies qui touchent évidemment les villages et les populations rurales. J'en ai terminé avec ce rapide panorama, mais la plupart des études que je viens d'évoquer révèlent l'organisation de groupes, de communautés villageoises en système d'autodéfense par la fortification, la garde, le guet. Quelques-unes soulignent l'engagement de ces mêmes populations, non plus dans la résistance passive, mais bien dans la résistance active, comme ce fut le cas en Normandie ou ailleurs. Mais aucune, ou à titre anecdotique, ne s'arrête sur l'usage d'une violence isolée, instinctive, informelle, comme je le disais tout à l'heure, de paysans contre des hommes de guerre. Pour autant, cette violence n'est pas individuelle, nous y reviendrons, mais elle ne connaît pas de leader à proprement dit, elle ne répond à aucune contestation politique qui consisterait à reconquérir des territoires ou déstabiliser une quelconque autorité. J'avais pour ma part relevé dans mes recherches initiales sur les phénomènes de brigandage de semblables cas, Jean-Louis Roch en a pointé quelques-uns aussi, sur ces manifestations violentes informelles. Alors on pourrait les analyser comme des queues de comète de violences plus organisées, comme le brigandage résistant des Normands, mais elles se sont désormais enracinées dans une autre forme d'organisation, ou plutôt de désorganisation, sans aucune légitimité, autre que celle d'une légitime défense, parfois d'ailleurs contestable, quand elle ne bascule pas, purement et simplement, dans le domaine de la criminalité. Autrement dit, il s'agit de violences pures, sans revendication politique ni sociale, autre que la réponse d'une haine à l'autre. Ce pourrait être un affrontement catégoriel, sans doute pas un affrontement social, car bon nombre de soldats sont d'anciens laboureurs qui ont abandonné le métier ou la charrue pour tenter, comme on dit, l'aventure de guerre. On le verra, certains paysans se révèlent comme des acteurs violents, c'est-à-dire capables d'une violence concurrentielle à celle des hommes de guerre. Ces exemples sont peu nombreux, mais ils existent en nombre substantiel. Et c'est évidemment dans les archives judiciaires que l'on peut les retrouver, là où ils tentent d'obtenir le pardon pour un geste criminel, qu'ils drapent alors pudiquement sous les voiles du patriotisme, ou bien plus souvent sous celui bien réel de la misère. De tels exemples se rencontrent à peu près partout dans le royaume. J'utiliserai ici quelques lettres de paysans du Nivernais ou de Picardie. Comme je viens de le dire, ces documents donc sont tous empruntés au fond judiciaire, en particulier donc celui des lettres de rémission, ce qui oblige d'abord à une double remarque. La première, c'est qu'il a d'abord fallu criminaliser ces gestes pour qu'ils soient susceptibles ou non d'un pardon. La deuxième, et la limite imposée par la rhétorique de ce type de source, la supplique place d'emblée le requérant dans une posture obligée, celle de la victime. Autrement dit, si le suppliant espère le pardon, il doit montrer le geste homicide comme un acte de légitime défense, et l'on verra que cette acception est assez large. Cette documentation donc guidera la trame de mon propos, et j'aborderai d'abord dans un premier temps le tableau de la dévastation des campagnes et de la violence infligée aux gens de village, avant d'aborder la violence paysanne proprement dite comme réponse à une autre forme de violence. Enfin, il faudra déterminer la nature de la légitimité qui arbitre au sein de cette concurrence entre deux types de violence. Comment le roi de France peut-il excuser la violence armée d'un paysan face à un homme de guerre qui a toute légitimité pour user des armes? Bref, comment justifier le désordre lorsqu'un vilain porte les armes sur un homme de guerre? N'est-il pas sortir de son état? Ou n'est-ce pas sortir de son état, plutôt? L'autorité publique, on le verra, a justifié, voire favorisé, cette violence armée au sein des campagnes. Alors, avant d'en venir aux études de cas proprement dit, je voudrais donc poser quelques points de vocabulaire. À savoir, donc, cette définition qui est souvent problématique, celle des brigands. Les insurrections populaires en Normandie ont fait émerger dans les textes normatifs le terme de brigand, qui est une qualification politique attribuée par les autorités anglaises aux populations qui remettaient en cause leurs intérêts, en s'en prenant en particulier à leurs agents. Une telle qualification a pour ambition de stigmatiser les résistants, de les criminaliser afin de les traduire en justice, voire de s'en saisir sans autre forme de procès. Le procédé est ancien, hein, en fait, on le trouve dès l'Antiquité. Il ne date pas non plus du début du XVe siècle, hein, puisqu'on a déjà des brigands des bois dans la seconde moitié du XIVe siècle. Je prendrai néanmoins deux cas normands ici pour évoquer, pour illustrer en tout cas cette définition. Alors, comment ne pas citer évidemment celui qui enseigna à Caen et fut évêque de Lisieux, Thomas Bazin, un contemporain, évoque justement ce genre d'homme désespéré qu'on appelait brigand, et dit-il, se renforça d'une manière surprenante en Normandie et dans les provinces voisines occupées par les Anglais. Un autre document, cette fois pragmatique, puisqu'il s'agit d'un certificat établi à Caen, le 9 août 1419 évoque « À tous ceux qui ces lettres verront, Jean Popham, chevalier, bailli de Caen, salut. Savoir faisons que Jacquet Vivien, brigand, a été amené esprison du roi notre sire à Caen par Jean Beret, anglois, lequel brigand a été exécuté pour ses démérites et ce certifions à tous à qui il appartiendra, etc. » Ces brigands, donc dénoncés par les autorités anglaises, sont donc avant tout des opposants politiques. Je n'y insiste pas, même si on verra un peu plus loin que l'acception va encore évoluer. Alors, ces brigands, peut-on les confondre avec les écorcheurs? Ceux que l'on qualifie de brigands résistants, j'aurais pu aussi utiliser le terme de Tuchin, en fait... Pour la Normandie, on le voit, ils se sont joints à des capitaines français, des routiers, que l'on a précisément qualifiés d'écorcheurs. Alors en Normandie, il faut dire qu'ils n'ont pas bonne presse, ces capitaines français, mais on ne les qualifie pas comme tels dans cet espace-là. C'est plutôt dans les territoires bourguignons ou d'obéissance bourguignonne que qu'on les a stigmatisés ainsi. Alors, c'est vrai que ces capitaines français, normalement, auraient dû porter secours à ces paysans révoltés. En l'occurrence, je dirais qu'ils ont conduit à une sorte de maelstrom de violence dans la campagne normande qui a causé des dévastations sans nombre. Le terme d'écorcheur est assez ambigu, je vous citerai tout à l'heure une lettre de rémission qui les évoque, parce qu'il est fortement chargé donc d'une connotation politique. Hein. C'est véritablement la stigmatisation bourguignonne à l'égard des Armagnacs, donc des partisans du Dauphin. Pour revenir rapidement sur ce terme, sur lequel j'ai un peu travaillé, ce mot appartient en fait au registre de la boucherie. Hein. Les écorcheurs, ce sont ceux qui littéralement donc écorchent les bêtes à l'abattoir. Et c'est simplement cette expression imagée que les chroniqueurs bourguignons ont repris pour dénoncer les excès commis par les capitaines armagnacs et français pendant la guerre civile. Il serait donc erroné de confondre ces hommes, capitaines de guerre ordinaires, avec des brigands, même si l'on s'en tient au sens criminel du terme, qui n'existe pas encore vraiment. Alors, je viens d'expliquer une possible utilisation du mot « brigand », mais il y en a d'autres. Ce terme a subi des inflexions majeures au cours de la guerre de Cent Ans, et il est bon de le rappeler rapidement. La définition actuelle, hein, est quelque peu désuète, est héritée pour une bonne part de la période moderne. Or, elle biaise sensiblement les choses et favorise les confusions si on la compare à la période médiévale. Et la synthèse de Hobsbawm, hein, sur les brigands, quelque peu littéraire, qui fut longtemps une référence, est obsolète, puisqu'elle s'appuie en fait sur des présupposés totalement erronés. Alors, que peut-on dire de ces brigands pillards et agresseurs de chemin? Le terme, en fait, de brigand emprunte à plusieurs registres. J'ai évoqué l'interprétation politique tout à l'heure, mais l'usage commun au XIVe siècle, et même un siècle plus tard, est avant tout et encore militaire. Le brigand, c'est avant tout un soldat qui porte la brigandine, un équipement modeste, hein, une sorte de jack rembourré, renforcé de plaques de métal. Et cette brigandine, elle est avant tout le harnachement des valets de guerre, plutôt même des hommes de pied, ceux à qui l'on confie le ravitaillement de l'armée. Bref, ce sont des fourrageurs, des valets qui n'ont pas bonne réputation auprès des populations civiles, en particulier en pays ennemis où la razzia et le butin font partie des usages de la guerre. C'est donc cette assimilation des brigands aux pillards qui, tout doucement, va faire évoluer le terme. Comme vous le savez, la violence étant souvent la meilleure médiation pour obtenir ce qu'ils souhaitent, eh bien, cette violence est devenue coutumière, à la fois en pays ennemi, mais aussi en pays ami. On le verra, ils sont tout aussi redoutables sur leur propre terre. Mais s'il y a glissement, l'acception criminelle, ou purement criminelle, elle est tardive. En fait, on la voit s'imposer au sortir de la guerre, au moins à partir du milieu du XVe siècle, et on la trouve associée à un autre terme qui est totalement nouveau, qui est né au même moment, qui est celui de voleur. Le terme au sens criminel n'existe pas avant le milieu du XVe siècle, le vol étant réservé jusque-là à la chasse au vol, c'est-à-dire la chasse au faucon. C'est donc peut-être cette cruauté et la soudaineté de cette forme de chasse qui a favorisé ce glissement sémantique. En tout cas, c'est une hypothèse que j'ai avancée pour ma part. Et c'est justement à ce moment-là que dans les textes, on voit apparaître aux côtés des voleurs les espions ou les agresseurs de chemin et les brigands. Là, on peut dire que la fusion et le glissement sémantique de ces mots dans le registre criminel est faite. Alors, je vous ai parlé des violents d'un côté de la barrière, mais il me reste à évoquer les autres. Je vais parler des laboureurs. Là aussi, se posent des problèmes de définition. Le terme de laboureur n'est pas simple, n'est pas univoque. Elle ne correspond pas à la définition moderne de paysan. On trouve plutôt les expressions de gens de village, de commune, voire d'homme de ou serre, ou homme de potée, ou bien encore homme lige, ou vilain, plutôt péjoratif. Pourtant, le terme de laboureur est abondamment utilisé par les sources, mais il recouvre une variété de situations qui ne peuvent se réduire à une hypothétique catégorie équivalente à ce que l'on pourrait nommer paysannerie, ni même à une paysannerie aisée. Il ne fait plus débat aujourd'hui sur la hiérarchie possible que le mot laboureur peut induire, mais surtout sa définition ne peut se limiter au monde rural. On trouve des urbains qui se qualifient de laboureurs, simplement en référence à la définition latine du travail, labor. Indépendamment du fait qu'il existe aussi des laboureurs intramuros, hein, qui travaillent aussi dans les champs tout en vivant à la ville. Bref, le mot laboureur, vous le voyez, est assez ambivalent. Les laboureurs se définissent comme tels parce qu'ils travaillent, en d'autres termes, ce sont ceux qui travaillent de leurs mains, par opposition aux rentiers du sol en particulier. Il faut donc être un peu vigilant, et on verra que c'est dans un contexte précis, où c'est la source, ou les indications qu'elle fournit, qui nous permettent de trancher dans l'une ou l'autre de ces définitions. J'en viens à mon deuxième point, donc. Je citerai donc un contemporain à travers une chronique anonyme. C'est un texte qui est extrait donc des chroniques de Metz pour mettre en lumière cette relation qui oppose traditionnellement le monde de la paysannerie à celui de l'aristocratie militaire, en l'occurrence le duc de Lorraine. Nous sommes au XVe siècle. Hein. En ce temps, le capitaine d'Amance, qui étoie en ce lieu pour le duc de Lorraine avec la garnison, se partit du dit lieu et vint faire course jusqu'à Loupy, où ils se vinrent à piller ceux du village. Et ceux du dit village et leurs circombes voisins se mirent ensemble pour rescourre leur poids, c'est-à-dire pour récupérer ce qui leur a été volé, et fut tué ce capitaine d'Amance et plusieurs autres de ses gens. De quoi le dit duc de Lorraine en fut merveilleusement courroucé, disant par son bon Dieu qu'il s'en vengera sur ces vilains. La violence portée par ces vilains contre des hommes de guerre constitue à ses yeux une véritable insulte venant de ceux qui ont osé contrevenir à leur état. D'ailleurs, En dépit du discours sur la guerre juste et les ordonnances ou recommandations royales qui tentent de discipliner les armées, les dommages collatéraux continuent de peser sur les populations civiles sans que personne ne s'en émeut vraiment. Ce sont les populations rurales, en particulier celles du Royaume de France, qui ont subi l'occupation ennemie, qui ont payé le plus lourd tribut pendant la guerre. D'autant que la stratégie adoptée par le roi de France, à partir de Charles V en tout cas, les campagnes, c'est-à-dire le plat pays, le pays sans défense, comme on dit d'une maison plate par opposition à la maison forte, ces campagnes ont été abandonnées à leur triste sort. Jean Froissart le rappelle en utilisant précisément l'expression de plat pays. Si à voix retrait l'iplou du peuple, l'or bien anse, est-ce forteresse et leur bétail caché devant eux, bien avant en Artois et en Vermandois. Car ce qui estoit trouvé sur le plat pays estoit perdu. Le plat pays est donc voué à être dévasté, pillé. Et sur cette coutume, je citerai simplement une autre chronique, celle de Tournai, qui résume assez bien la situation au début du XVe siècle. Et ainsi retournèrent les Flamands en leur pays, faisant grand dommage partout où ils passoient aux gens de village. Toutes lesquelles choses estoient au préjudice des pauvres paysans et laboureurs, comme il est de coutume, car la guerre se prend toujours aux pauvres laboureurs. Comme Philippe Contamine le soulignait dans un article, l'enjeu de l'envahisseur, en l'occurrence anglais, était de ruiner les seigneuries de l'adversaire, je le cite, pour diminuer sa capacité d'action et de réaction, et pour démontrer aux populations que l'adversaire était précisément hors d'état de les protéger, alors même que c'était là son premier devoir. La dévastation répond à des fins militaires, sans compter les rançons et la razzia. Car la guerre est aussi le moyen de tirer un maximum de profit pour des hommes engagés dans un conflit, où ils espèrent au moins récupérer la mise de départ qui a permis de payer l'équipement militaire indispensable à leur enrôlement. Christopher Holman, dans son livre « The Hundred Year War », rappelait que la recherche du profit direct et privé était une incitation essentielle, la motivation par excellence. Les gens de guerre ont très rapidement pris l'habitude de se ravitailler sur les campagnes avec l'excuse traditionnelle, que l'on retrouve d'ailleurs dans les lettres de rémission, que le roi était dans l'impossibilité de les solder, et ce jusqu'au milieu du XVe siècle, avant la grande ordonnance de réformation de l'armée. Et encore. Il faut rapporter que le comportement de l'armée royale, en terre amie comme en terre ennemie, fut d'autant plus déplorable que, pour une bonne part, ces troupes étaient composées d'éléments exogènes, étrangers à la région, au royaume, que l'on songe aux Bretons de Bertrand du Guesclin ou d'Olivier de Clisson, aux Gascons de La Hire ou de Xaintrailles. Autrement dit, ces capitaines et leurs hommes étaient d'autant moins encombrés de scrupules que les paysans qu'ils dépouillaient ou massacraient n'étaient pas leurs compatriotes, au sens de la petite patrie, bien sûr. Enfin, à côté des armées théoriquement régulières, prospéraient des aventuriers qui n'opéraient pour aucun chef officiellement reconnu et pillaient parfois pour leur propre compte, ce qui fut le cas en particulier des grandes compagnies. Cette désobéissance des hommes d'armes est d'autant plus grande que l'on se trouve sur des espaces frontières, par nature mal contrôlés, comme dans les cas qui nous occupent ici, entre France et Bourgogne. Prenons justement l'exemple d'une lettre de rémission qui évoque la route du capitaine Petit-Jean de Bourgogne et les méfaits de ces gens, qui ont causé donc de nombreuses dévastations dans le comté de Nivernais en l'espace de quelques semaines. Furent audit pays l'espace de 3 semaines ou environ, durant lequel temps il pilloit, robroie et destroussoie les pauvres gens du pays et leur faisoit plusieurs autres grands dommages et oppressions. À chaque fois, derrière le syntagme « grand mot » ou celui de « grand dommage », nous retrouvons la trilogie habituelle des malheurs de la guerre, l'incendie, les radias, les rançons, et l'on pourrait encore y ajouter naturellement 2 autres crimes qui accompagnent les troupes dans leur sillage, je veux parler du viol et du meurtre. Parmi les conséquences de ces dévastations, il faut citer les impacts démographiques indirects de la guerre, même si je ne m'y étends pas beaucoup, certains étant plus quantifiables que d'autres. Je veux parler de la désertion, de l'abandon des finages, parfois des villages. La révolte du Pays de Caux en 1435, pour prendre un exemple normand, entraîna des dévastations importantes, sans parler du massacre d'un certain nombre de villageois, qui se comptent en plusieurs milliers. Thomas Bazin décrit ainsi ce territoire après la remise en ordre opérée par les troupes anglaises commandées par le comte d'Arundel. Cette terre, jadis riche d'hommes et de biens, tourna à l'abandon complet, prit l'aspect d'un désert, des champs immenses vides de toute culture. Il avance même le chiffre de 2000 âmes, je le cite, emportées par le fer, la faim ou la maladie. Il poursuit, la malédiction fut si grande en Caux que le pays demeura presque entièrement inhabité, hommes et femmes fuyaient par terre et par mer comme en péril de feu. Les dommages et les agressions physiques qu'ils ont subies ont fait naître chez certains hommes de village un sentiment de haine qui est allé pour les plus hardis jusqu'au désir de vengeance. J'en viens à mon troisième point, donc, violence paysanne. Je commencerai assez naturellement par les acteurs en évoquant rapidement quelques profils. J'ai donc sélectionné quelques lettres de rémission pour cet exposé plutôt centré, vous le voyez, sur le Nivernais. La rémission, par principe, comprend une déclinaison d'identité, certes en partie codée, mais elle fournit quand même des informations indispensables, même si elles sont très concises. Commençons par celle de Jean Johanneau, dit revenu, qui se déclare « pauvre homme laboureur, chargé de femmes et de 13 petits-enfants ». Elle est datée d'avril 1447 et il rapporte des faits qui se sont produits 15 ans plus tôt. Je cite simplement un extrait. Un nommé Petit Jean de Bourgogne, accompagné de valets de guerre, tenant le parti à nous contraire, lequel tenoie les champs et espioie les chemins. Jean Jubin, de la commune donc de Cervenon, enfin de la paroisse de Cervenon, toujours dans le Nivernais, adresse lui aussi en 1447 une rémission au roi pour des faits qui remontent à octobre 1438. Il décline son identité comme paroissien de Prémerie au diocèse de Nevers, pauvre homme laboureur chargé de plusieurs petits-enfants. Un autre laboureur, Philibert Jarpin, lui aussi donc domicilié dans le comté du Nivernais, réclame rémission la même année pour des faits similaires. Je reviendrai peut-être dans le débat sur la question de la chronologie tout à l'heure. Il dit avoir participé 6 ans plus tôt à une expédition punitive contre plusieurs compagnons d'armes. L'homme se présente à son tour comme un pauvre homme laboureur, chargé de femmes et enfants. Nous retrouvons la rhétorique habituelle de la rémission, où la pauvreté rime souvent avec l'humilité, indispensable à la posture du requérant. Elle n'exclut pas pour autant une pauvreté réelle. Ces hommes sont mariés, au moins pères de famille, ce qui, au regard du roi, est un élément favorable à l'obtention de la grâce, car la famille, comme cellule indispensable à la stabilité de la société, doit être préservée. D'autant qu'elle souligne aussi la bonne insertion des individus en question. Pourquoi ? Parce qu'il est important de se présenter comme un sujet honorable qui n'a rien à voir avec un mauvais sujet, comment dirais-je, rioteux, comme on dit au Moyen-Âge, hein, celui qui cherche la bagarre et qui se trouve mêlé donc à de nombreuses rixes. Jarpin, donc Philibert Jarpin, dont nous ignorons l'activité précise, rappelle là encore les faits. 6 ans à ou environ, un nommé Tempête, capitaine de gendarmes et de trait, fut logé entre les rivières de Loire et de Allier, et Ilec faisoit grand mot. Le décor est planté. Le capitaine et la compagnie en question ont acquis cette détestable renommée entre le comté de Nevers et le duché de Bourbon. Et précise-t-il, pour ce qu'il estoie comme une renommée, est-ce pays de Bourbonnois et de Nivernois. Une autre demande de pardon fait apparaître un comparse qui serait intervenu dans la même affaire, puisqu'en fait, ces paysans auraient donc attaqué des compagnons d'armes près de Givry, hein, on n'est pas très loin, enfin on est toujours dans la Nièvre, pas très loin donc du domicile des suppliants en question. Il s'agit donc de Pierre des Estuis, que j'ai cité ici, qui se décline lui aussi comme un pauvre homme chargé de femmes, mais sans fournir d'indications sur son statut professionnel. Il en est de même de Guillaume Senot, qui a participé à la même affaire et qui a lui aussi réclamé une lettre de rémission. On a donc au moins 4 lettres de rémission pour cette seule affaire de Livry. Alors on peut se poser la question de savoir s'il s'agit d'un groupe homogène de villageois, de voisins, Toujours est-il qu'ils sont suffisamment unis, ces hommes, et solidaires, hein, pour agir de conserve dans une semblable expédition. Les dommages qu'ils ont subis les ont en tout cas solidarisés dans une même haine. Tous se plaignent des mêmes maux que leur auraient fait subir Tempête et ses hommes. Et l'on retrouve à chaque fois le même énoncé, très formel, hein, c'est vrai, plusieurs grands mots, pillerie, robberie, mots innumérables, je crois que c'est Pierre des Estuis qui ajoute, pique gens de guerre, qui passaient à longtemps ustesté ou pays, ou ne leur avoient fait, hein, c'est-à-dire qu'eux, ils sont encore pires que les hommes de guerre ordinaires. Alors, s'il insiste, c'est peut-être aussi pour justifier la force de sa réponse, on y reviendra, et souligner que Tempête et ses hommes sont peut-être allés au-delà des usages coutumiers de la guerre. Alors, ces différentes rémissions individuelles additionnées trahissent bien une action collective, celle le groupe malgré tout informel, même si certains individus se distinguent dans l'initiative. Les suppliants, d'ailleurs, évoquent les conditions de cette initiative, de ce début d'action. C'est la rumeur, parfois, qui les met en action. On retrouve, par exemple, l'expression de « après les paroles, oua », comme un élément déclencheur. D'autres soulignent que c'est sous l'injonction d'autres compagnons de village rencontrés au hasard qu'ils se sont retrouvés à un point précis ou qu'ils se sont retrouvés même mêlés à l'agression des valets de guerre. Ce sont parfois le cri des femmes qui peuvent aussi appeler les hommes à la rescousse. Pourtant, dans la plupart des cas, on a bien le sentiment que la part de spontanéité est réduite. Le plus souvent, il s'agit d'une action concertée, voire d'une expédition programmée. On trouve les expressions comme « ils parlèrent ensemble », « ils se concertèrent ». Il se passe parfois plusieurs jours entre la prise de décision et l'action proprement dite, ce qui tempère largement, nous y reviendrons, l'argument de la légitime défense, y compris aussi l'excuse de la colère. Il s'agit donc bien d'expéditions collectives. Philibert Jarpin, que je viens d'évoquer, ne s'est pas élancé seul donc dans cette entreprise, puisqu'on le voit, il y a au moins 5 individus, et encore précise-t-il, autres compagnons, dont nous ignorons totalement le nombre. Je le cite. « Tous se mirent sus pour aller destrousser le dit Tempête. » Guillaume Senot, qui est aussi compromis dans la même affaire, évoque 7 à 8 hommes qui se mirent sus pour aller destrousser le dit Tempête et s'en allèrent au dit lieu de Livry. Le cas est non seulement fréquent mais indispensable, d'abord parce que les routiers se déplacent rarement seuls, d'autre part parce que les 10 compagnons de guerre sont toujours mieux armés et plus aguerris qu'une bande de paysans, certes déterminés à en découdre. Dans l'affaire relatée par Jean Jubin, un autre laboureur du Livernais, donc, un homme de guerre a bien été saisi par le groupe, hein, mais il faut 5 paysans au moins pour s'en assurer la garde. Le suppliant, d'ailleurs, déclare être intervenu à la demande d'un tiers, Guillaume de la Bruille, un voisin peut-être, qui l'aurait même payé, lui et son compagnon, pour prêter main forte à 2 autres hommes qui détenaient donc un valet de guerre du bâtard de Pennesac, donc un capitaine français, écorcheur originaire de Guyenne. Je le cite. « Allez-vous au bois de Lambre, près de Cervenon, au-dessus de la maison de Jean Carré, et là trouverez Guillaume le maréchal et Jean Brinon, qui tiennent un prisonnier de ces gendarmes. Allez leur aider pour la nuit, et je vous donnerai à chacun 2 gros. » La rémunération du coup de force a peut-être pour ambition d'atténuer la responsabilité des faits, du moins le choix de l'initiative, mais une chose est certaine, tous ces hommes se connaissent. Quelles sont justement les cibles de nos paysans? Le dernier exemple le prouve assez clairement, ce sont avant tout des valets de guerre. Les routiers, trouve-t-on parfois, hein, les routiers. Le mot routier étant en fait aussi bien celui qui conduit la route que ceux qui en font partie. Ce sont ces fourrageurs que j'évoquais tout à l'heure, qui sont chargés de ravitailler les troupes qui sont visées. C'est aussi pour ces raisons que les paysans s'en prennent plus rarement à des écuyers, par exemple, ou encore moins à des chevaliers. En revanche, les témoignages ne manquent pas de rappeler le nom des capitaines qui ont la responsabilité de ces hommes. À chaque fois, on nous précise que ce sont les gens de, les hommes de. L'expression souligne fort justement que seule l'autorité du capitaine encadre ces hommes, qui ne se rattache souvent à aucune autre autorité, je dirais même à aucune autorité publique. Cette parcellisation de la force armée, pour ne pas dire plus, dont des dizaines de capitaines furent dépositaires à titre individuel pendant la guerre de Cent Ans, pose naturellement le problème de la discipline et au-delà, celle du contrôle de l'armée en général. Ici, c'est le bâtard de Pennesac et à une plus petite échelle, le capitaine Tempête, qui incarne donc ces hommes dont la force armée fut souvent incontrôlable. Les lettres de rémission reprennent parfois le terme d'écorcheur pour les distinguer, comme dans cette lettre de décembre 1441 qui relate des faits qui se sont produits dans le Laonnois. Que comme au mois d'avril qui fut l'an 1437, en un jour de dimanche, le dit suppliant estoit en la ville de Farnier, estant en la dite prévôté du dit Lan, avec plusieurs autres. En laquelle ville de Farnier, auprès d'Issel, fut dit qu'aucun compagnon de guerre nommé au pays les escorcheurs avoua, ou les aucuns d'eux, boutait le feu en une maison du dit audit Farnier, appartenant à un appelé Houdard de la Neuville. Pour laquelle cause le dit suppliant, assez tôt après les dites paroles oua, se partit de la dite ville de Farnier avec plusieurs autres, et le lundi prochain, en suivant, et celui dimanche, environ 8 heures avant midi, le dit suppliant alla en la compagnie du dit Houdard et de plusieurs autres près d'une ville nommée Tarigny. Venons-en précisément aux modalités et aux enjeux de l'action. On le voit, il s'agit bien d'opérations de représailles, des représailles qui visent d'abord les biens. On dérobe aux gens de guerre pour se payer de ce qui leur a été dérobé, comme une sorte de droit de reprise contre le droit de prise des hommes de guerre. Deux exemples simplement. Aux quatre compagnons du capitaine Tempête, Philibert Jarpin et ses compagnons, je cite, austères, deux arbalètes d'acier, une hache, leurs espées et leurs vêtements, environ 6 livres tournois, que or, que monnois. Guillaume Senot confesse quant à lui que certains temps auparavant furent en compagnie de 2 ou 3 autres compagnons à détrousser un jeune compagnon qui se disoit être clair, mais qui venoit de la guerre, auquel fut ostée une tasse d'argent et une heure, un livre d'heures, qui lui fut rendue sans aucunement méfaire à son corps. Le cas est un peu particulier. Est-ce l'habit qui a retenu ces villageois ? Toujours est-il que le doute a profité au clerc en question et que cette tentative nourrit toujours les remords du suppliant qui, je cite, « doute rigueur de justice lui être administré tellement qu'il n'oserait jamais bonnement ne sûrement demeurer au pays. » Mais la plupart du temps, la vengeance ou la haine va plus loin et s'exprime rapidement à travers l'agression physique proprement dite. À Livry, que j'ai déjà évoqué, les villageois ont, à chaque fois, cela revient dans les différentes lettres de rémission, Courucius battu les 4 compagnons de guerre en question. Le problème, c'est que les coups sont souvent mortels. C'est aussi, c'est vrai, l'objet souvent des lettres de rémission. À Farnier, dans la prévôté de Lan, les 2 compagnons d'armes ont été également battus à mort, au point que nous retrouvons notre suppliant près de la fosse où il doit prêter main forte pour les enterrer. Philibert Jarpin rappelle les faits qui l'ont conduit vers l'irréparable. Il dit qu'il a d'abord suivi ses voisins, mais que tout a basculé quand il s'est agi de terminer l'affaire. En effet, l'un des villageois entend pousser plus loin les représailles, car, dit-il, il a à déplorer la mort d'un frère. Le dit suppliant et ses compagnons parlèrent ensemble et cuidèrent délivrer et laisser aller les 4 compagnons des gens du dit Tempête qu'ils avoient pris et détroussés, ce sont les mêmes. Mais, à l'occasion de ce que le bâtard de Montempuis, l'un des compagnons du dit suppliant, disoit que les gens dit celui Tempête avoient tué son frère et aussi du temps qu'ils ne brûlassent leur maison, consentir ensemble, la dilution de la responsabilité individuelle, que les 4 compagnons qu'ils avoient preints et destroussés, comme dit, fussent noyés. La peur des représailles qui a conduit ainsi les villageois dans une surenchère me paraît de toute façon assez vraisemblable sans avoir utilisé l'argument donc d'un homicide antérieur. je poursuis. Et ce fait, le dit suppliant et ses compagnons parlèrent ensemble, cuidèrent des livrets. Ah non, ça, je vous l'ai déjà lu. Et consentirent ensemble. Donc, que les dix quatre compagnons qu'ils avaient point retrouvés, comme dit, fussent noyés. Et l'or s'en partit le dit suppliant et laissa les dix quatre compagnons de la compagnie du dit tempête, est-main de ses compagnons. L'équerre, les noyèrent, c'est à savoir deux en l'étang de Vachos et les deux autres en l'étang d'Aiglon. Le dit suppliant, qui vous le voyez, a pris ses distances en disant qu'il n'avait pas participé directement donc au noyade en question, craint malgré tout suffisamment les rigueurs de la justice pour s'être enfui du village en attendant l'obtention de sa rémission. On rencontre assez souvent des mises à mort par noyade. On a d'autres formes d'assassinat, mais c'est quelque chose qui revient assez souvent. Je rencontrais aussi le cas où on les jette dans des puits. Alors, il y a des scènes qui sont, un peu plus sanglantes, je ne sais pas comment qualifier la suivante, avec le cas de Philippe Auconte. Philippe Auconte est un homme âgé de 30 ans, il est marié, père de 8 enfants, et rapporte des faits qui se sont passés dans la Haute-Noire en 1437. Il met là... précisément donc aux prises des gens de village avec ceux qu'il nomme donc écorcheurs. Le dit suppliant donc décide qu'après l'incendie provoqué d'une maison dont je vous ai fait le récit tout à l'heure, se retrouve donc avec plusieurs hommes, et je reprends son récit, pour ce que on leur avoit dit qu'aucun compagnon de guerre avoit illec mis à mort aucun des dits appelés écorcheurs. Et pour ce que le dit suppliant est soit courroucé du dommage que les dits appelés écorcheurs avoient fait et des biens meubles qu'ils avoient emblés, c'est-à-dire volés, il alla au lieu auquel on disoit que les dits compagnons est soit morts, qui est soit à peine à une demi-lieue ou environ du dit farnier. Et ilec furent trouvés deux des dits compagnons de guerre, desquels le dit suppliant ne sait les noms, fort qu'ils aient soit comme on disoit, du pays d'Escosse, dont l'un fut dépouillé, on ne sait par qui, et autre estoit couché par terre, semblant être mort, lequel fut semblablement dépouillé par aucun de la compagnie comme mort, et fut sa fosse faite assez près de là pour le y mettre, cuidant qu'il fût mort. Et mêmement, il se lui suppliant print une bêche pour pouvoir faire la dite fosse. Mais il perçut que le dit compagnon de guerre n'estoit point mort. Un se plaignoit, et par loi de confession, en mettant peine de parler, et par loi très mal. Pour laquelle cause, le dit suppliant se partit, et s'en retourna vers la dite ville de Tarigny. Et assez près de la dite ville, rencontra plusieurs compagnons, entre lesquels le dit Oudard de la Neuville, celui à qui on avait brûlé la maison. Donc qui est soit dans le groupe. Auquel il dit que le dit compagnon n'est soit point mort. Après lesquelles paroles, le dit Oudard et autres s'en allèrent vers le lieu où estoit le dit compagnon de guerre, lequel compagnon de guerre, comme on dit, fut féru d'une bêche par le dit Oudard en la tête et jeté en une fosse. Un soir, qu'il fut mort, couvert de terre, auquel lieu l'on dit qu'il est encore. Alors, vous le voyez, on a une mise à mort qui est pathétique ici, moins propre que la noyade, si je puis dire. Mais le suppliant, là encore, se dédouane quelque peu en disant qu'il n'a fait que rapporter des faits, mais qu'il n'a pas assassiné, à proprement dit, le dit compagnon à coup de bêche. En tout cas, il a préféré lui aussi fuir la région, pas rigueur, craignant un rigueur de justice, pour attendre donc le pardon du roi. Ces exemples, nous pourrions les multiplier et ils révèlent les limites de la légitime défense. Alors, comment excuser de tels gestes? Si l'on s'en tient à ces deux derniers exemples, ce sont en plus des hommes de guerre qui étaient au service du roi de France qui ont été assassinés. J'en viens donc à mon dernier point, le pardon, la justification de la violence paysanne. Peut-on parler d'une violence ordonnée? Dans leur récit, les suppliants prennent toujours soin de rappeler le contexte de la guerre et les maux que l'on fait subir les gens de guerre, quelle que soit leur appartenance. Et si la formule présente la même rhétorique, il ne s'agit pas d'un simple discours pour justifier le pardon. Nous avons évoqué la réalité des faits qui se cachent derrière l'énoncé des mots innumérables tant de fois répétés dans ces lettres. La légitime défense n'est pas toujours exclue. Je n'ai retenu ici que des cas qui sont un peu différents. Et c'est vrai que les arguments mis en valeur ne l'évoquent pas. Ils rappellent un état de colère. C'est précisément ce courroux qui les a conduits vers le geste homicide. Hein. Tous se déclarent fort courroucés. Même si, là encore, l'enchaînement des faits atténue aussi l'argument. Pourquoi évoquer cet état de colère? Eh bien parce que très souvent, dans le pardon, on tient compte de cet échauffement hein, qui peut excuser ces gestes homicides. La plupart des villageois tentent également de diluer la responsabilité individuelle dans l'action collective et collectivement concertée. Certains tentent même de se disculper, nous l'avons vu, en adoptant la simple posture de l'observateur. D'autres encore mettent en cause l'inspiration diabolique par la tentation de l'ennemi, qui est un autre recours classique, mais reconnu par la chancellerie, pour tempérer, là encore, une responsabilité individuelle. Mais surtout, ce qui se dégage à la lecture de ces lettres, c'est la légitimité de la vengeance, qui est bien en accord avec les ordonnances royales ou les simples lettres patentes du roi, qui autorise les populations, et je cite l'expression, à se contre-vengier des soldats violents et pillards. C'est assez ancien, enfin en tout cas, je vous ai cité des exemples du milieu du XVe siècle, mais on trouve dès le milieu du XIVe siècle des ordonnances en particulier, entre 1355 et 1357, qui autorisent donc à résister aux gens de guerre, ceux justement qui prenaient des vivres sans payer. Et l'on autorise donc ces populations de villages à s'assembler au son de la cloche et à s'en revengier. On trouve la même chose du côté anglais. Je vous ai cité donc aussi l'ordonnance, je ne vous l'ai pas remise in extenso, mais en tout cas on peut citer l'ordonnance du régent Bedford en 1428, qui autorisait aussi donc les gens de village à se saisir des pillards anglais hein, qui vivaient impunément sur le pays. Plus généralement, on trouve des lettres patentes qui abandonnaient des hommes d'armes qui avaient failli ou s'étaient distingués par une cruauté particulière à vivre sur les bonnes gens. Et ce sont ces lettres que les suppliants invoquent pour légitimer leurs gestes, en particulier dans l'affaire de Livry, donc à l'égard donc de ses quatre compagnons qui ont été noyés. Il s'agit littéralement d'hommes abandonnés, hein, c'est le terme choisi. Ce qui est là encore plus justifié puisqu'on retrouve l'argument de la trahison. Tempête et ses hommes auraient déserté une place où ils devaient tenir garnison face aux Anglais pour mener une guerre à leur propre compte ou se livrer plus généralement à un pillage en règle des terres environnantes. Alors, la première lettre donc de rémission dans l'affaire de Livry fait clairement référence. Je la cite. « Pour ce qui laisse toi commune renommée, espée de Bourbonnois et de Livernois, que nous avions abandonné, donc c'est le roi qui parle, hein, à travers la chancellerie, le dit Tempête, à l'occasion de ce qu'il avoit désemparé le lieu où il est soit en garnison, à l'encontre de nos anciens ennemis et adversaires. » Bon, c'est là où on retrouve donc l'argument de la trahison. Dans la deuxième lettre, celle de Pierre des Estuis, celui-ci explique « Il fut grande nouvelle que nous les avions abandonnés, à l'occasion de ce qu'ils avaient laissé certaines places estant à la frontière. » La connaissance de ces ordonnances passe par l'oralité, hein, c'est la commune renommée, où il y a grande nouvelle. Ce n'est pas toujours le cas. On a des populations rurales qui sont en tout cas bien informées. Je prendrai un autre contre-exemple avec une rémission ici, plutôt dans le Gâtinais. C'est celle de Girard Liébeau, des premières années du XVe siècle, qui explique donc que ses compagnons du plat pays se sont mis sus sous ombre de ce que par nos lettres patentes, de par nous publiées en plusieurs lieux de notre royaume, par cris solennel et à son de trompe, nous avions abandonné les gens des dites garnisons, en l'occurrence Montargis, pour lesquels lors nous tenions nos ennemis et rebelles. Peut-on pourtant évoquer des limites à ce pardon? La plupart de ces lettres sont délivrés dans un contexte de retour à la paix, de réforme de l'armée. On en voit beaucoup hein, dans les années 1445-1447. Il y a d'autres rémissions pour des faits similaires dans des décennies antérieures, mais ce ne sont pas toujours les mêmes arguments. En fait, on voit bien que depuis les ordonnances que j'évoquais tout à l'heure, au milieu du XIVe siècle, le roi a donc commencé à signifier qu'il souhaitait abandonner, comment les qualifier, les mauvais enfants de la guerre, autrement dit qu'ils appelaient à leur châtiment, ce qui revient au même que d'excuser leur mise à mort. Le roi n'avait guère les moyens matériels ni financiers de faire régner la discipline dans ses armées, une indiscipline qui, reconnaissons-le, le servait aussi parfois. Alors, il fut sans doute plus simple de s'en remettre aux principaux intéressés, c'est-à-dire aux principales victimes de ces soudards pillards et de les armer. Pourtant, si le roi a autorisé, souvent favorisé, ce recours à la violence armée des populations civiles contre les routiers, il convient, après ce qu'on pourrait appeler la militarisation des campagnes, de rétablir désormais l'ordre social et de désarmer ces populations civiles. C'est l'œuvre de l'après-guerre qui sera une œuvre de longue haleine. Je n'ai pas le temps de développer. C'est sans doute la première limite. On pourrait enfin ajouter, c'est sans doute la nuance la plus importante, c'est que l'on trouve, il n'y a pas de manichéisme en la matière, de manière symétrique, des rémissions pour des hommes de guerre qui sont pardonnés pour avoir commis les mêmes excès, gestes homicides ou autres mots, sur les mêmes laboureurs au nom des coutumes de guerre. Et le roi, eh bien, pardonne aussi parce qu'il reconnaît qu'il était dans l'incapacité donc de solder ses armes et qu'il s'agissait des coutumes de la guerre. Juste quelques remarques en conclusion pour dire que ces différentes confessions trahissent une hostilité catégorielle et sociale. Le mépris du soldat entrant souvent en résonance avec la haine du paysan, incarnant bientôt l'hostilité des populations civiles à l'égard du soudard, et ce pour plusieurs siècles encore. J'ai ici voulu mettre en lumière cette violence presque instinctive des paysans de la fin du Moyen-Âge, en dehors de tout groupe organisé, tout grand mouvement tel qu'on l'a pu les citer au début de cet exposé, mais une violence qui témoigne de leur capacité à nouer des solidarités fortes, d'une réactivité aussi qui nous éloigne des clichés habituels sur le monde paysan, volontiers dépeint dans la peur et la soumission. La peur est certes réelle, mais elle n'inhibe pas ces hommes prêts à sauver leurs biens et leur honneur par les armes. Il est remarquable enfin de souligner que pour une part, cette violence s'est faite avec l'agrément, sinon plus des autorités publiques, usant d'une violence sur l'autre. Ou parfois, je dirais, les gens de la bourre ont été largement perdants. Les sources normatives font néanmoins apparaître que même les violences de la guerre connaissent des limites, même si ces limites ne sont pas intangibles, et que cette violence paysanne ne fut qu'une parenthèse, un pis-aller, et que très vite, il a fallu rendre les armes. Je vous remercie et je vous rends la parole.